Je nous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Nous montons tous vers Sion.
Amen.
Quelle merveilleuse cité. Vraiment, il n'y a rien de comparable vis-à-vis de cette cité. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de progrès à progrès vers cette cité-là. Cela veut dire que Jésus-Christ devient de plus en plus réel. Car on est vraiment en lui et quand nous sommes en train de nous diriger vers Sion. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Puisque c'est la seule chose qui nous a réunis ici. Que Dieu nous aide à faire que ce soit seulement la parole qui puisse sortir du haut de cette chair. Nous allons prendre nos Bibles. La Bible qui est le livre de vie, tous nous sommes là-bas dans la Bible. Et nous allons lire Philippiens. Philippiens chapitre 2, au verset 8. Verset 8, on peut aller jusqu'au verset 11. Verset 8, je vais lire. 8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vraiment, que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom devant lequel tout genou doit fléchir, que ce soit au ciel, sur la terre et sous la terre, permet encore que ce nom puisse être élevé pendant ces quelques minutes que nous allons passer ici, Seigneur. Ô Dieu, mets loin de nous tout esprit de distraction qui pourrait nous éloigner de l'atmosphère de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tes fils et tes filles que voici, ils ne sont pas venus écouter un homme, ni voir un homme. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de toi, puisqu'ils savent pertinemment bien qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peux prendre un cœur de pierre et le transformer en un cœur de chair. Il n'y a que toi, Père, qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Il n'y a que toi qui peux prendre un mort et le ressusciter. Il n'y a que toi qui guéris les malades. Ô Dieu, permets maintenant, Seigneur, que tous ceux qu'ils ont comme problème puissent trouver la solution à toi, Seigneur. C'est toi seul qui est notre solution. Et qu'après avoir écouté, qu'ils puissent vraiment se réjouir et être contents d'avoir eu contact avec celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je te le demande ici au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Voilà. Et il s'est humilié lui-même. Et voilà. Et nous allons relire un peu ce que nous venons de lire. Donc, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même et Dieu l'a souverainement élevé. Et le sujet aujourd'hui, ça sera ça. Il s'est humilié lui-même. C'est ça le sujet. Donc, ça va nous parler de l'humilité. Un grand mystère, l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Humilité, nous savons, C'est, le dictionnaire dit que c'est une vertu. C'est la vertu qui donne le sentiment de notre faiblesse et qui réprime en nous tout mouvement de l'orgueil. Alors, le contraire de l'humilité, c'est justement l'orgueil. C'est ce sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres, parce qu'on est plus que les autres. Ça, c'est l'orgueil. Alors que ce qui est vrai, c'est que nous n'avons qu'une seule tête ici. Il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors, quand je lis donc qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et c'est pourquoi, c'est pour cette raison que Dieu l'a souverainement élevé. C'est donc un des secrets de notre Seigneur Jésus. Cette humilité-là, il l'a souverainement élevé. Je vais un peu souligner le verbe « élever » puisque nous en parlons beaucoup ces derniers temps. Donc, je comprends qu'il y a un rapport avec la prière puisque nous avons dit que la prière, c'est une élévation. Une élévation, nous nous élevons d'une certaine atmosphère, une atmosphère terre à terre, jusqu'à une atmosphère de celui qui est le très haut. C'est une élévation. Donc, c'est comme nous escaladons, donc nous sommes sur l'escalier, nous sommes en train de monter pour atteindre peut-être le 20e niveau. Vous savez que ce n'est pas facile. C'est quand même pénible de monter comme ça. C'est pour cette raison qu'on peut comprendre pourquoi les gens n'aiment pas la prière. C'est parce que c'est quand même un service assez lourd, assez pénible. Je crois que le frère Benoît qui conduit le veillée de prière a fait quelque chose. Puisque là, en tout cas, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont là. C'est très peu de gens. Ah, et quelquefois, on est là au somnole parce que ce n'est pas facile. C'est un sacrifice assez lourd. Mais ce qui est étonnant, on va le lire un peu ici, c'est que pour certaines personnes, c'est quand même un plaisir. La prière est devenue un plaisir. Est-ce que ça peut être aussi un plaisir pour moi? Est-ce que ça peut être aussi un plaisir pour toi? Je vais lire un peu dans ça doit être acte. Oui, acte 12, je crois. Alors, l'histoire de Pierre. Acte 12. Je vais lire acte 12. Oh, est-ce que c'est ça? Oui, attendez. OK. Donc, on voit Pierre là-bas. C'est acte 12, là, on parle de Pierre qui était à prison ou quoi? C'est ça, ah, oui, acte 12, c'est vrai. Voilà. Acte 12 au verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Et de tout ce que le peuple juif attendait. Et après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où très peu de gens étaient réunis et priaient. Est-ce que j'ai bien lu? Non. Là, c'est quand même un peu étonnant, c'est que là, il y avait beaucoup de gens. Alors, nous sommes quand même en droit de nous demander, mais quel était le secret de ces gens-là? Qui trouvait du plaisir dans cette chose pénible, cette chose qui nous fait transpirer, la prière. Le secret, on peut aussi poser la même question à Pierre. Un Pierre qui vient de la prison, là où il a été maltraité. On sait ce qui se passe dans des prisons. Il a été maltraité, peut-être il ne se lavait même plus. Mais le premier réflexe, c'est d'aller à la prière, au lieu d'aller même dans sa maison. Et se laver d'abord. Et se consoler avec sa femme. Mais Pierre va à la prière. On peut dire vraiment que c'est un extraterrestre. Non, il avait un secret. Donc il y a quelque chose qui pouvait vraiment l'aider pour qu'il voie du plaisir dans la prière. Et avant de voir ce quelque chose-là, bon, il y a une histoire qu'on m'avait racontée, c'était en RDC. Un pasteur, bon, ce n'est pas facile d'être pasteur, ou femme de pasteur. Les pasteurs reviennent des voyages missionnaires. Je pense que je ne vais pas raconter ça exactement, mais on aura quand même une certaine idée. Donc, un voyage de missionnaire peut-être de 3 mois. Voilà. À la tombée de la nuit, il vient. Bon, il va chez lui. Il va se laver. Il va maintenant dormir avec sa femme, bien sûr. Mais, il y a un frère qui vient. Il dit, mais pasteur, tu as oublié que nous avons une veillée de prière aujourd'hui. Ah oui, une veillée de prière, tiens. Ah, alors qu'est-ce que le pasteur va faire? Il vient de voyage. Sa femme est là, est-ce que femme de pasteur, tu vas laisser ton mari aller à la veillée de prière? Oui, si à toi il y a ce type d'amour, il y a un type d'amour qui est de loin différent. Les types d'amour que nous avons vis-à-vis de nos épouses. Avec ce type d'amour-là, qui est l'amour agapao, le pasteur devait aller à la réunion de prière. Oh, ce n'est pas facile, hein? Mais quel est le secret qu'on doit trouver dans cette chose pénible? On doit trouver du plaisir. Je pense que c'est ce que le secret peut se... se dénicher dans ce que nous avons lu là-bas. Dans Philippiens, si nous pouvons retourner là-bas. Donc, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, il l'a élevé de manière souveraine. C'est, donc, il y a une intervention de Dieu dans la prière. La prière, c'est un miracle, en fait. Dieu intervient. Et quand il intervient, ça devient un plaisir. Parce que ce n'est plus tellement ta force. Quand il te voit en train de pâter là-bas, essayer de prier là, « Ah, mon enfant a vraiment de l'amour à mon égard. » Alors, il vient t'assister. Amen. Souverainement, j'ai lu dans le dictionnaire, signifie « de manière excellente, de manière parfaite. » Donc, au lieu de souffrir sur l'escalier, tu montes du rez-de-chaussée jusqu'à... au 20e étage, alors si tu es un ami de Dieu, il vient mettre à ta disposition un moyen beaucoup plus perfectionné, qui est plus perfectionné que l'escalier, qui est plus parfait que l'escalier. Nous l'avons aujourd'hui, c'est l'ascenseur. Alors, il met à ta disposition un ascenseur spirituel. Et dans l'ascenseur, mais... je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui peut vraiment se gêner quand il est en train de monter dans l'ascenseur. C'est avec plaisir qu'on monte. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui intervient lui-même dans la prière. Quand il voit cet amour qui est à toi pour lui, il intervient. Nous avons l'habitude de le chanter. Dans « Je vais monter ». Et je vais monter sur la montagne. C'est là qu'elle rencontre Dieu. Et je vais monter sur la montagne. Et si le chemin est rocaillé, mais il y a quelqu'un qui va m'aider. Le Saint-Esprit qui est là. Il va me guider. Il y a Jésus qui va me consoler. Il y a toujours du surnaturel qui t'aide dans la prière. Alléluia. C'est ainsi que il y a certains qui trouvent du plaisir là-dedans. Oui, ce n'est vraiment pas de l'imagination, puisque Quand nous lisons justement l'échelle de Jacob à question, là où nous avons parlé de l'élévation dans la prière, nous voyons que dans cette échelle-là, au verset, c'était Genèse 28, verset 12, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Mais si vous voyez ce que Jésus-Christ avait dit, c'est la même chose qu'il avait dit à ce sujet dans Jean 1:51. Jean 1:51, pour nous montrer que cette échelle-là de Jacob, c'est aussi lui-même Jésus-Christ qui vient nous aider dans la prière. Jean 1:51, si vous laissez encore les doigts sur ce que nous venons de lire, vous allez voir la même chose. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ouf. Donc, cette échelle-là qui fait souffrir si on n'est pas dans la relation d'amitié avec Jésus-Christ, mais quand tu es dans cette relation, c'est Jésus-Christ lui-même.
Amen.
Qui vient, il va t'aider et ça devient plaisir.
Amen.
C'est ça, donc, en fait, la prière. Il n'y a personne ici parmi nous qui peut se targuer d'orgueil en disant « Non, non, mais moi, je suis fort dans la prière. » Non. Romains 8 le dit. Hein, et nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander dans la prière. On peut le lire. Romains 8, au verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Oui, parce que nous n'avons pas cette force-là de prier nous-mêmes. Mais l'Esprit nous aide, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède par des soupirs. Il ne trouve pas tellement de termes dans le vocabulaire humain. Vous les voyez seulement des « io, 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 io ». Il est en train de soupirer. C'est ça, la prière. Et quand il était même dans la chair, c'est comme ça qu'il priait. La Bible témoigne en disant qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Et quand il priait, alors, il priait avec des larmes. C'est Hébreux 5, au verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, et il a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez, c'était son habitude. Il priait avec larmes. Aujourd'hui, comme frère Branham le dit, on a perdu un peu de ça parce qu'il y a des maquillages sur nos figures. On ne veut pas effacer ces maquillages, alors on a honte ou peur de faire sortir des larmes dans la prière. Alors que c'est comme ça que notre Seigneur priait. Alléluia. Amen. Donc, l'humilité est le secret même de la prière. Quand on est humble, alors humble vis-à-vis de la parole de Dieu, le Seigneur vient lui-même. Il vient nous assister. Alors notre prière devient comme un plaisir. Il est fait pour ses amis. Nous pouvons le vérifier. Ses amis, c'est là qu'il aime. C'est là qui aime la parole. C'est là qui se préoccupe de lui. On peut le vérifier un peu dans Luc 14. Luc 14. Luc 14. Je ne sais pas si quelqu'un veut être ami de Jésus-Christ. Moi, je veux être son ami. Il n'y a personne ici qui veut être ami de Jésus. Ah, merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors, il va vous aider même dans la prière. Voilà. Donc, Luc 14, au verset 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Va dans l'humilité. Ne va pas dans l'orgueil. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, comment il va t'appeler? Mon ami. Vous voyez, celui qui est humble devient ami de Dieu. Celui qui est orgueilleux devient automatiquement ennemi de Dieu. Alors, c'est normal que la prière soit vraiment tout un calvaire pour lui. Mon ami, il lui dit seulement, monte plus haut. Monte plus haut. C'est lui qui nous fait monter. Alléluia. Ce n'est pas le cas de Saoul dont nous avons parlé la fois passée là. Saoul essaie de faire ceci, ça ne va pas. Cela, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il était devenu ennemi de Dieu. Saoul était souvent dans l'orgueil. Et si Dieu en a fait son ennemi, et sa prière a été très, très, très pénible, il n'a même pas pu contacter le Seigneur parce qu'il était dans l'orgueil. Alléluia. Cela veut dire que l'orgueil, c'est notre ennemi. Et dans les églises, c'est un des gros ennemis. Et là, nous allons essayer de les montrer. Nous allons, parce que, justement, si c'est l'orgueil qui nous empêche d'entrer dans la prière, qui nous empêche de trouver que la prière, c'est vraiment un plaisir, nous devons chercher à les dénicher à nous pour demander à notre Seigneur de bien pouvoir, de bien vouloir prendre les fouets comme ce qu'il avait pris quand il avait fouetté, il avait chassé tous ces vendeurs de pigeons, tous ces échangeurs de monnaie dans le temple, afin de nous débarrasser de cette chose-là. Amen. Cette chose qui nous empêche les bénédictions. Alléluia. Amen. Nous allons les voir dans l'histoire, par exemple, de notre ami, dont il n'est pas notre ami, mais les pharisiens. Les pharisiens qui étaient montés au temple. Il est monté au temple, ce n'est pas pour jouer. Il était monté au temple pour utiliser cette arme de la prière. Il a sans doute appris que la prière, c'est l'arme la plus efficiente, jamais placée entre les mains des hommes. Que la prière change les choses. Et moi aussi, je vais l'utiliser. Malheureusement pour lui, il n'a pas pris un bon compagnon comme Jésus avait pris Pierre, il avait pris Jean et Jacques, la foi, l'amour et l'espérance. Malheureusement, lui a pris l'orgueil. C'est cet orgueil qui a fait qu'il puisse tout rater. Sa prière a été un fiasco à cause de ça. Parce que, si nous lisons la fin de ce chapitre, il a été rabaissé. Donc, il est resté au bas de l'échelle. Au lieu de monter, au lieu de se retrouver tout près de Jésus, comme les cantiques les chantent, donc je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Au lieu de communiquer, d'avoir l'occasion de communiquer avec Dieu, il est resté là-bas. Donc, une des choses que l'orgueil fait, une des choses terribles, c'est que l'orgueil détruit l'efficacité de la prière. C'est ça. Alors que nous avons à notre disposition l'arme de la prière qui est avec laquelle nous pouvons tout obtenir auprès de notre Dieu. Mais quand c'est avec orgueil, c'est fichu. Nous sommes abattus. Nous nous retrouvons au bas de l'échelle. C'est ce qui était arrivé à ces pharisiens-là. Voilà. Ils se retrouvaient au bas de l'échelle. Et nous pouvons dénicher cet orgueil dans ce qu'il disait là. Il dit au verset 11... Les pharisiens, debout, priaient ainsi à lui-même. Il ne parlait pas. C'est des choses qui étaient dans son cœur. Donc, quand tout le monde voyait les pharisiens, ils disaient, « Oh, waouh, il est en train de prier. Ah, quel beau frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur ?» Oui, nous pouvons poser de beaux actes ici, mais qu'est-ce qui se cache dans mon cœur? Qu'est-ce qui se cache dans votre cœur? Je peux prêcher ici, mais qu'est-ce qui se cache dans mon cœur? Oh, que Dieu m'aide, afin que dans mon cœur, il ne puisse y avoir que des motifs et des objectifs justes. Afin, la seule chose à faire pour dénicher ça, c'est de se poser soi-même des questions. Tu te poses des questions comme celle-ci, par exemple. Mais pourquoi je suis en train de faire ceci? Quel est mon but réel? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ma réputation? Est-ce pour aider vraiment mes frères et mes sœurs? Ou bien c'est pour que on puisse parler à bien de moi? Il sait bien prêcher, il sait bien prier. Si c'est cela, c'est zéro. Est-ce par amour ou par tout juste le désir de reconnaissance? Voilà, puisqu'il y a un peu de ça tout le temps dans nos cœurs, un peu d'orgueil. Que Dieu nous débarrasse de cette chose.
Amen.
Voilà. Il pria lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce. » C'est de belles paroles. Une belle religiosité, souvent qui cache des mauvaises choses dans notre cœur. Ça sert à quoi? De montrer des bonnes choses à l'extérieur, alors que dans notre cœur, il y a de très mauvaises choses. Dieu ne va pas regarder à quoi regardent les hommes là-bas. Les hommes vont t'applaudir même. Dieu saura que dans le cœur, il y a tout autre chose. Et toi-même, tu le sais. Moi-même, je le sais. Je ne peux pas me tromper moi-même. Alléluia. Alors, il dit, « Je te rends grâce de ce que j'ai. » Voilà. Donc, tout tourne autour de ce mot-là. J'ai. Si vous pouvez compter les j'ai dans sa prière-là, c'est plein de j'ai. Et j'ai. Donc, la première place, ce n'est plus Dieu, c'est moi. C'est ça l'orgueil. Et là, quand c'est je, nous chassons tout simplement Jésus de notre rassemblement à ce moment-là. Parce que il a dit, si c'est à mon nom, si les choses se font à mon nom, alors je serai au milieu de vous. Quand les deux disciples parlaient de Jésus-Christ, c'est quand ils parlaient de Jésus qu'ils se retrouvaient au milieu de vous. Mais quand c'est le je, c'est moi, Jésus ne viendra pas. Et nous allons rester avec nos problèmes. Nous allons rester avec nos maladies. Que le Seigneur nous assiste. Alors, il continue. Il dit, voilà, il faut surveiller encore. Voilà. Il dit, je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes. Toujours cette comparaison. C'est comparer aux autres. Mais on ne sera jamais quelqu'un d'autre pourtant. C'est le diable qui nous trompe. Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Chacun a un don particulier qu'il tient du Seigneur et qu'il doit mettre au service des autres. Mais l'orgueil nous pousse à nous comparer aux autres. Pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi pas moi? Mais lui, c'est ça, Dieu l'a prédestiné pour ça. Oh, Dieu, aide-nous. Voilà, je ne suis pas comme les autres. Les autres qui sont comment? Qui sont ravisseurs, injustes. Donc c'est comment? Un prédicateur qui cogne beaucoup sur le péché. Oui, c'est bien, mais est-ce que c'est pour quel motif? Quel est l'objectif? Si c'est pour se sentir un peu plus saint que les autres, plus juste que les autres, c'est tout faux. Parce que il n'y a personne qui peut être saint de lui-même. Il faut seulement la grâce de notre Seigneur. Ça, c'est là, personne. Et tout le monde a péché privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, il continue. Qu'est-ce que moi je fais? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme. Donc, tout ce qui est visible là, c'est ça, sa gloire. Alors que Dieu ne regarde pas ça. Regarde ce qui est dans ton cœur, au motif, ce qui te pousse à donner tes dîmes là, ce qui te pousse à gêner. Il regarde ça. Et aussi longtemps que les motifs ne sont pas justes, alors c'est tout faux. L'orgueil, c'est un pire ennemi qui nous empêche d'entrer dans la vraie prière. L'orgueil tue même la foi. Le frère Branham le dit dans « J'ai attendu, maintenant je vois ». Il dit « se prêcher les versets 11-65, les paragraphes 69. Vos motifs et objectifs doivent être exactement et parfaitement justes. Alors vous avez la foi à cela. Il faut être à même de dire dans votre cœur, je désire ceci pour l'honneur et la gloire de Dieu. Alors la foi a un canal dans lequel elle peut se mouvoir. Si elle ne l'a pas, vous avez alors une foi mentale et intellectuelle, mais pas la foi authentique venant de Dieu. Cette foi intellectuelle ne vous amènera nulle part. Elle vous rendra peut-être émotif, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous attendez. » C'est ça donc. C'est ce que l'ennemi fait, il nous empêche d'avoir toutes ces choses. Et ça, nous voyons ça très bien dans l'histoire de ces pharisiens. Nous pouvons le voir aussi dans l'histoire de Saoul. Saoul, c'était un autre orgueilleux. Quelqu'un qui aimait vraiment s'attacher aux honneurs venant des hommes. Vous le voyez dans 1 Samuel, hein? 1 Samuel 17, 18. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 au verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, ah, les femmes ont une foi aussi terrible, elles aussi ne se taisent pas, mais voilà, les femmes ont eu le courage. Hein, ce qui a fait créer des problèmes à nos pauvres David. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul. Femmes, vous oubliez que c'est Saoul qui est le gros pasteur là, mais vous commencez maintenant à parler en bien d'un petit David. Hein? Donc, d'Israël devant du roi Saoul, à chantant et à dansant, au son des tambourins et des triangles, et à poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Ils disaient, Saoul a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Ah, qu'est-ce que cela a eu de l'impact sur Saoul? Saoul fut très irrité. Waouh! Et cela lui déplut. Voilà. Là où l'orgueil peut nous amener. Au lieu de se réjouir quand un enfant de Dieu a été honoré, mais tu commences à te dire, mais pourquoi ce n'est pas moi? Mais alors, si tu ne te réjouis pas, tu n'es pas dans le corps de Jésus-Christ. Dans ce corps-là, on se réjouit quand mon frère est honoré, quand ma sœur est honorée. Ça devient ma joie. C'est 1 Corinthiens qui le dit. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on va le chercher vite, vite. Il faut toujours courir. Bon. 1 Corinthiens 12. Ça nous dit ceci. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Ici, ce n'était pas la souffrance, c'était la joie. Hein? Un frère venait d'être honoré. Alors, avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, quand il y a de l'orgueil à toi et à moi, cela montre tout simplement que je ne suis pas dans ce corps-là. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a de la joie quand un membre est honoré. Il y a de la joie quand mon frère a réussi. puisque nous sommes dans le même corps, nous sommes dans une même équipe. Et la joie de mon frère, c'est ma joie. Mais ce n'était pas ça le cas de Saoul. Et vous voyez ce qu'il dit, hein? Il dit, voilà. Il dit, on a donné 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne 1 000. Il met Saoul. Mais oui, cherche-toi aussi un Goliath, mais si tu parviens à le terrasser, on va te donner 10 000, non? Hein? Cherche Goliath. Mais David a fait quelque chose. Tu ne veux pas qu'on puisse l'honorer? C'est ça donc. David, c'est ça donc être. Il y a donc des gens qui prennent un ministère pour seulement un titre de prestige. Un ministère, c'est une lourde responsabilité. Et ils prennent le nom de chrétien comme un titre de prestige. Un chrétien, c'est une lourde responsabilité. On doit voir Jésus en train d'œuvrer à toi. Alors là, les gens vont dire, ouais, ce sont des chrétiens. Comme ça a été aberré là-bas. Ils ont vu des Pierre, ils ont vu des Jacques. Comment ils priaient, comment les œuvres de Christ se manifestaient en eux. Mais ils ont dit, ce sont des chrétiens. Ce n'est pas un titre de prestige. C'est une responsabilité. C'est comme ces frères-là, c'est le frère Joseph Lee Langa qui nous parlait de ça. Hein, je crois, un frère-là, qui avait un problème avec un autre, c'est le frère, c'était un pasteur. Il dit, non, mais ce frère-là, vraiment, non, il m'a fait du mal. Pourquoi, frère? Non, il m'a appelé seulement frère, alors que je suis pasteur. Mais tu es pasteur, mais tu es aussi frère, non? Oui? Et qu'est-ce qui est plus grand de toutes les façons? C'est fils de Dieu. Amen. Si tu n'as que le titre, avec ce titre, tu iras en affaire. Mais si tu es fils de Dieu, il n'y aura aucun fils de Dieu en affaire. Il n'y aura aucune fille de Dieu en affaire. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous donne la joie. Quand il est, c'est fini. C'est une bonne fois pour toutes. Amen, amen. Voilà donc Saoul. Et ce monsieur de Saoul était vraiment très attaché aux honneurs. On peut encore le voir. Il est 1 Samuel 15, au verset 30. Oui, c'est quand il venait de désobéir là-bas et Samuel était allé lui faire des reproches. Au verset 30, maintenant, il dit, j'ai péché. Il essaie quand même de s'humilier un peu, mais toujours une fausse humilité. J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. C'est toujours en présence des humains. Mais si ce sont les hommes qui t'honorent et Dieu ne t'honore pas, ça te sert à quoi, mon frère? Ça te sert à quoi, ma soeur? J'aimerais que plutôt que Dieu puisse m'honorer et que les hommes ne puissent pas m'honorer. Ça a beaucoup plus de valeur. Alléluia. Donc, il était tout le temps dans ces choses. Honore-moi. Honore-moi devant mes anciens. C'est ça qu'il a vraiment détruit. Il a détruit puisque il ne s'attendait qu'aux honneurs des hommes. Ça, ce n'était pas le caractère de David. Hein? David avait un caractère tout différent. Je pense qu'on va lire ça dans l'histoire de David, dans 1 Samuel, 2 Samuel 6, je crois. Lui, en tout cas, c'était d'abord Dieu. Même devant ces généraux-là, c'était d'abord Dieu. Dieu d'abord. Et ce généraux-là, la deuxième place, c'est quand il dansait devant l'Éternel. On peut le lire dans 2 Samuel, au verset, et non, chapitre 6, verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michaël, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. C'était sa femme. Hein? Elle dit quel honneur aujourd'hui pour les rois d'Israël de s'être découvert aux yeux de servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Donc pour lui, quand il est en train de danser pour l'Éternel, devant ces généraux-là, devant tous ces secrétaires, donc il faisait comme si c'était un homme de rien. Mais qui est plus grand finalement? Est-ce que ce sont ces généraux ou bien c'est Dieu, mon Dieu? David savait ça. Il savait que son Dieu était plus grand que tous ces généraux. Il ne pouvait pas avoir honte de parler de son Dieu, de danser pour son Dieu devant les généraux, devant ce secrétaire, ses servantes. Et ça faisait honte à sa femme. Oh, sa femme n'était pas encore dans ce corps-là de Jésus-Christ, sans doute. Alors, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. David savait d'où il était venu. Un pauvre petit berger qui est devenu roi. Comment ne pas louer l'Éternel? Comment ne pas chanter pour sa gloire? Alors qu'on sait là où il nous a ramassés, dans la boue du péché. Alléluia! Oh, alors c'est ici qu'il a parlé à sa femme. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Il lui a rappelé ça. Ton père qui a eu peur devant Goliath, hein? De préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel. Ce n'est pas devant mes servantes ou mes serviteurs, oui, que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel. Et je vais paraître encore, si tu veux vraiment. Tu veux vraiment que me provoquer, je vais danser encore plus fort. Hein? Il ne faut pas provoquer un enfant de Dieu. Il va te faire honte pour rien. Hein? Tu veux encore lancer des années. Alléluia. Amen, amen. Alors tu auras tellement honte. Il y a tellement de gens qui ont honte de Jésus-Christ devant leur chef, leur pote. Qui est plus grand? Ce sont vos potes-là. Ce sont vos chefs. Et Frère Branham l'avait dit, je n'ai jamais vu, je répète souvent ça, je n'ai jamais vu des gens qui ont honte de leur religion comme des chrétiens. C'est très pitoyable. Il ne faut pas avoir honte. David, c'est Paul qui a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Quand on a honte comme ça, on s'éloigne de cette puissance. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et les gens que nous critiquons souvent, des musulmans, ils n'ont pas honte. Ça, j'ai vraiment été témoin de ça moi-même. Une fois, je suis entré dans un magasin, là. C'était l'année passée ou une autre année, là. Je voulais aller acheter un sac. J'arrive là, c'était malheureusement pour moi et pour tous les autres clients, l'heure de la prière des musulmans. Et le vendeur, là, il se foutait de vous tous. Il s'est mis en genoux. Il priait les gens. Oh, ça coûte combien, monsieur? Il est en train de prier. Prie son Dieu. Il ne peut pas arrêter sa prière parce que vous lui demandez le prix. Ça coûte combien, monsieur? Les gens aussi, vraiment. Il voit que quelqu'un est vraiment concentré là. On pose toujours des questions. Mais il est. Jusqu'à ce qu'il a terminé toute sa prière. Mais nous, les pauvres, qui nous appelons des chrétiens, on a honte de prier. Devant le chef, on dit, mais qu'est-ce qui va passer de moi? Qu'il passe de moi tout ce qu'il veut. Hein, je m'en fiche. Oui, c'est parce que, bien sûr, bon, ça peut s'accompagner peut-être de... le chef va te répudier. Même s'il te répudie, comme tu as pris position pour Jésus, hein, Jésus va t'aider. Ça m'est arrivé une fois à Jamblou, là. À Jamblou, j'ai beaucoup souffert là-bas. Alors que j'ai préparé ma thèse. Hein? J'ai eu comme moi aussi. Donc, dans mon mémoire, là, c'était encore le DEA. J'ai écrit, donc, je remercie mon Dieu et tout ça. Ah, le monsieur n'a pas aimé ça. Et quel type de chercheur qui met Dieu même dans des travaux, des recherches scientifiques. Hein? Il m'a vraiment sérieusement coincé. Celui-là, il ne voulait même pas que j'aie mon doctorat. Mais j'ai changé d'université, mais je l'ai eu, mon doctorat. Je l'ai eu. Donc, parce que Dieu ne m'a pas abandonné, même si cet homme-là m'a abandonné. Alléluia! N'ayons pas honte de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Alléluia! Amen. Donc, David, lui, n'était pas de ce genre d'homme-là. Lui, il a dit devant sa femme, si tu veux me provoquer, je vais dasher encore plus. Et ça va te faire davantage la honte. Amen. J'aimerais être comme David. J'aimerais avoir aussi une telle vie, moi aussi. Alléluia. Je pense que nous allons nous arrêter là-bas. Donc, nous allons profiter de cette occasion pour adorer notre Dieu, puisqu'il est déjà 20 heures. Nous allons nous mettre debout. Nous allons élever nos voix vers notre Dieu. En fonction de ce que nous venons d'écouter dans cette prédication. Que Dieu nous donne l'humilité, la vraie humilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Surtout que nous comprenons que l'humilité, ça va beaucoup nous aider. Ça va nous aider même dans la prière. Ça va nous aider à avoir la foi. Que Dieu nous débarrasse de cette chose qu'on appelle l'orgueil. Parce que c'est vraiment un poison dans les églises. Ça nous empêche d'avoir la foi. Nous allons prier, nous tous, prions le Seigneur. Dieu notre Père, je te suis reconnaissant, Dieu d'amour. Toi qui nous as parlé de la simplicité la plus totale au sujet de l'humilité. Et nous avons compris aujourd'hui, Seigneur, que l'humilité, c'est une grande chose. C'est l'humilité qui nous aide dans la prière. C'est l'humilité vis-à-vis de la parole de Dieu qui fera que nous puissions, oui, trouver du plaisir dans la prière, alors que certaines personnes ont du mal. Certaines personnes trouvent que la prière est quelque chose de pénible. Oh Seigneur, fais de moi un homme humble. Fais de mon frère un homme humble. Fais de ma soeur une femme humble. Humble vis-à-vis de ta parole. Humble vis-à-vis de mes frères et de mes soeurs. Que nous puissions tout le temps, Seigneur, être à même de regarder les autres comme étant plus que nous. Oh Dieu, afin que nous aussi nous puissions nous retrouver dans ton cercle d'amis, ces amis à qui tu dis, monte mon ami, monte plus haut. Je veux moi aussi me retrouver dans ce cercle-là, Seigneur. Oui, si Pierre, Daniel, David se sont retrouvés dans un tel cercle d'amitié, c'était des hommes de même nature que nous. Cela veut dire que moi aussi, je peux m'y retrouver, Seigneur. Cela veut dire que mon frère peut s'y retrouver. Cela veut dire que ma soeur peut s'y retrouver. Seigneur, puisses-tu nous venir en aide. Nous comprenons que ça, toi, nous ne pouvons rien du tout. Nous ne pouvons même pas savoir prier. Nous avons grandement besoin de ton Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui intercède avec des soupirs inexprimables. Nous avons grandement besoin, Seigneur, de cet assasseur, spirituel, qui est Jésus-Christ lui-même. afin que, Seigneur, toutes les fois que nous allons prier, oh Dieu, ça puisse nous faire du plaisir. Merci, Seigneur. Nous croyons que nos prières sont montées vers toi. Puisque, Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as permis que nous puissions parler de tels sujets. Il n'y a pas de hasard dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons. Ton serviteur Branham pouvait le dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que tout a une signification. Transforme-nous complètement, Seigneur. Alors que je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, amen. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Je vais demander à quiconque qui a un problème personnel, maladie, problème financier, problème socio-économique, quel qu'il soit, alors qu'il lève la main. Et je vais prier avant que nous ne puissions retourner chacun à son domicile. Dieu notre Père, je te remercie, Seigneur, pour ce bon moment que nous venons de passer dans la simplicité la plus totale, encore autour de toi. Oh Seigneur, je me souviens de ce qui est écrit dans ta parole. Un jour dans tes parvis vaut plus que 1000 jours passés ailleurs. Oui, ces quelques minutes que nous venons de passer ici dans la simplicité, ça a beaucoup plus de valeur que 1000 jours que nous pouvons passer ailleurs. David pouvait les comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'il pouvait danser de toute sa force. Oh, pour la gloire de notre Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions toujours être animés de ce même esprit. Maintenant, Seigneur, tes enfants viennent de passer ce temps pour toi. Oh Dieu, il y en a qui ont des problèmes. C'est toi qui connais ce qui se trouve comme problème derrière toutes ces mains qui ont été levées, Seigneur. Et si je te demande d'intervenir, puisque, Seigneur, la Bible dit clairement qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit de toutes nos maladies. Quelle que soit la maladie dont souffre mon frère, dont souffre ma sœur, Seigneur, étends ta main. Et touche-le, touche-la de ta main, afin que prochainement, quand il viendra, il reviendra encore ici. Quand elle reviendra, Seigneur, que cette requête puisse être transformée en action de grâce. Et toute gloire ne pourra retourner qu'à toi et à toi seul, Seigneur. Daigne nous l'accorder, oh Dieu. Toi qui as dit « Demandez-le, vous donnera. » Toi qui as dit « Cherchez, vous trouverez. » Toi qui as dit « Frappez à la porte vous sera ouverte. » C'est ce que nous sommes en train de faire, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas du théâtre. Nous avons déjà vécu maintes fois, Seigneur, oh Dieu, des expériences où tu nous as répondu, où tu as fait des merveilles dans notre vie. Nous savons que tu es vivant, tu existes. Et tu es le rémunérateur de ceux-là qui te recherchent. Merci, Seigneur, de tendre ta main. Quels que soient les problèmes, problèmes d'argent, problèmes socio-économiques, Seigneur, tu es la solution. Merci, Père. Nous croyons que tu nous as écoutés, Seigneur. Ils sont venus. Tu les as protégés à l'aller. Protège-les maintenant au retour, Seigneur. Surtout qu'ils viennent d'écouter ta parole et que quelque chose, un plus, puisse s'ajouter à leur vie spirituelle, afin que partout ils vont se retrouver, Seigneur. Oh Dieu, qu'on puisse les reconnaître pour avoir été avec Jésus, comme on reconnaissait nos pères, les apôtres, après avoir contacté le Seigneur des Seigneurs. Bénis nos foyers respectifs. Remplis nos foyers de la paix que tu donnes et que le monde ne peut jamais nous donner. Bénis cette assemblée et occasionne, oh Dieu, davantage de réveil dans cette assemblée. Donne-nous l'amour de la prière et que Seigneur, oh Dieu, de la même manière qu'il y avait beaucoup de gens dans des réunions de prière, qu'ils puissent chaque fois y en avoir aussi. Toutes les fois que nous allons nous rassembler dans la prière, accorde-nous cela, Seigneur. Nous croyons que tu nous as écoutés, puisque tes oreilles ne se sont jamais endurcies pour attendre ton Père, et ton bras ne s'est jamais raccourci pour venir en aide. Que le règne, l'honneur, la gloire ne retournent qu'à toi, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que nous puissions retourner dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.